Orient Hebdo, Éric Bataillon.
Bonjour, la répression s'emballe en Turquie, une épuration est en marche et les autorités ratissent large. Plus de 85 000 fonctionnaires ont été suspendus ou limogés, parmi lesquels des militaires, des magistrats, des enseignants, des policiers. Des entreprises sont mises sous tutelle, des associations sont dissoutes et leurs biens confisqués. Une chasse aux intellectuels est également en cours. Des journalistes comme Ahmet Altan, des écrivains comme Asli Erdogan, des éditeurs comme Nekmi Alpay, des universitaires, des syndicalistes. C'est notamment en raison de ce durcissement du régime, qui remonte à 2013, que notre confrère journaliste Jérôme Bastion a choisi de quitter la Turquie au bout de 20 ans de présence à Istanbul. À suivre également la revue de presse « Regard croisé sur Israël et le monde arabe » avec Michel Paul à Jérusalem et Alexandre Bouchanti au Caire.
Orient Hebdo sur RFI.
Allô ?
Allô ?
Merhaba.
Jérôme Bastion, bonjour.
Bonjour.
Journaliste à RFI, vous présentez actuellement les journaux d'information Afrique du matin. Mais on vous connaît aussi pour avoir été le correspondant de la chaîne en Turquie pendant 20 ans. Alors qu'est-ce qui vous avait donné l'envie de vous installer dans ce pays en particulier ?
Mais c'était un peu dans la continuité déjà de l'actualité que j'avais couvert à l'époque, à savoir l'Algérie. On était dans à peu près le même schéma avec une montée de l'islam politique qui se traduisait par des élections remportées les unes après les autres par la formation à laquelle appartenait à l'époque celui qui est président aujourd'hui, Recep Tayyip Erdogan. À quoi se rajoutait une tension régionale aussi bien moins grande que celle d'aujourd'hui, mais notamment dans l'est du pays, dans la région à majorité kurde, ça faisait qu'il y avait un intérêt pour RFI de couvrir cette région, ce pays qui est un grand pays, et pour y avoir été à l'époque deux ou trois fois en reportage ponctuellement, je me suis rendu compte qu'effectivement il y aurait beaucoup à faire et beaucoup à dire sur la Turquie. Je ne me suis pas trompé.
Vous étiez installé à Istanbul, installation qui s'est bien passée.
Oui, très très bien. À l'époque, il y avait beaucoup moins de journalistes étrangers, européens notamment, que ces derniers temps. Mais l'installation s'est faite très facilement. Enfin, la Turquie était, en tout cas jusqu'à il y a peu, un pays quand même très très ouvert, très facile d'accès. Les gens sont très décontractés, très accueillants.
Alors vous avez vécu l'arrivée au pouvoir de l'AKP, le Parti de la Justice et du Développement, et de son président Recep Tayyip Erdogan. C'était une évolution inexorable selon vous ?
Oui, c'était une évolution qui avait d'ailleurs commencé avant moi, puisque le mentor de Recep Tayyip Erdogan, qui était Erbakan à l'époque, et le parti s'appelait le Parti de la Prospérité, était promis effectivement à arriver au pouvoir assez rapidement, et donc quelques semaines à peine après que j'arrive en Turquie, effectivement, il était devenu le Premier ministre, enfin le Vice-Premier ministre plus exactement, et Monsieur Erdogan venait de remporter la mairie d'Istanbul, donc effectivement, c'était inexorable. Et d'ailleurs, c'est une tendance régionale. On le voit du Maroc jusqu'à la Jordanie, y compris dans les républiques du Caucase, etc. C'est une progression naturelle et mondiale, on peut dire.
Alors, dans quel sens avez-vous vu la société turque évoluer sous la direction de l'AKP ?
Alors, sous la direction de l'AKP, très très rapidement, ça a surpris beaucoup de monde d'ailleurs, et de manière très positive dans toute la première partie du mandat de Erdogan, qui était d'abord Premier ministre et ensuite président. Mais il semble qu'effectivement, depuis la fin de son mandat de Premier ministre, et depuis qu'il est devenu président, les choses sont en train de partir en arrière, en fait. Maintenant, le pays part en marche arrière. C'est une régression assez inquiétante, alors qu'au début, c'était vraiment le gouvernement le plus démocratique que la Turquie ait connu depuis des décennies, sans aucun doute. Un grand développement économique, le rapprochement avec l'Union européenne. Enfin, vraiment, c'était un brillant avenir était promis à la Turquie à l'époque. Mais la deuxième partie du mandat se termine mal. Enfin, elle se termine pas, mais en tout cas, ça va de mal en pis aujourd'hui.
Vous imaginez que M. Erdogan a quitté les pas dans lesquels il était, c'est-à-dire les pas de Mustafa Kemal, pour autre chose ?
Ah oui, très très nettement. Là, il est en train de brûler tous les ponts derrière lui. Plus il avance, plus il pousse le pays au chaos, malheureusement. Et tout le monde se demande bien comment ça peut se terminer. En gros, depuis juin 2013 et les grandes manifestations de Taksim pour la sauvegarde du parc de Gezi, on se demande où il va. Et chaque jour ou chaque semaine, en tout cas, qui se passe, on constate qu'il continue à aller en quelque sorte droit dans le mur. Donc c'est pour ça que c'est assez inquiétant, parce que là, on est quand même dans un pays qui est à la fois en guerre civile, et qui vient d'échapper à un coup d'État. Enfin, c'est, la situation est critique.
Aile akşamı.
Çağdaş, demokratik, sosyal, laik, hukuk ilkelerine dayalı anayasal düzen tesis edilene kadar Uluslararası Konseyi ulusumuz adına her türlü tedbir alacak.
Alors justement, ce coup d'État du mois de juillet, est-ce que, selon vous, il était prévisible ?
Ah, très très largement, oui. Je l'ai dit et écrit à de multiples reprises au moment où je suis parti. C'est d'ailleurs un petit peu pour ça aussi que je suis parti. On sentait très très nettement que les choses étaient en train de mal tourner et qu'il y avait un délire autoritaire de la part de celui qui est président aujourd'hui, mais qui était Premier ministre à l'époque donc de ces grandes manifestations de Gezi. Et au moment où, il y a un an, j'ai décidé de quitter la Turquie, il était quasiment écrit, inscrit, prévu par toutes les auspices qu'on veut, et que il y aurait un coup d'État, il y aurait un développement violent d'une manière ou d'une autre, un coup d'État comme celui qu'il y a eu, un coup d'État réussi, un coup d'État de X ou de Y. On savait pas trop d'où ça pouvait venir, mais il est indiscutable que le président Erdogan s'est fait beaucoup beaucoup d'ennemis et que son manque de démocratie et son abus d'autoritarisme allait le mener quelque part où personne n'aurait voulu que la Turquie se retrouve.
Alors beaucoup d'ennemis, vous venez de le dire, mais aussi beaucoup d'amis, puisque lors de la tentative de coup d'État de juillet, la population s'est mobilisée en sa faveur.
Alors il y aurait beaucoup à dire sur cette tentative de coup d'État. On ne sait pas encore exactement comment ça s'est passé, mais une chose est sûre, c'est que la première personne à ne pas être surprise par ce coup d'État, c'est bien le président lui-même. Il est clair que M. Erdogan, lui aussi, sentait venir les choses, avait pris des mesures en amont pour d'abord y échapper, bien entendu, et puis aussi pour préparer en quelque sorte les purges qu'on voit aujourd'hui qu'il souhaitait. Parce que même s'il était au sommet d'un pouvoir fort, s'il tenait fortement le pouvoir, il était fragilisé et il avait besoin de ces purges, de se débarrasser d'une partie de l'opposition politique, d'une partie de l'opposition aussi dans la société civile, de cette espèce d'opposition interne qu'on peut résumer à la confrérie Fethullah Gülen, et qui est qualifié aujourd'hui d'organisation terroriste, littéralement, alors que ça n'a jamais été ni un parti politique, ni une force militaire et organisée. Donc on savait, et il savait lui aussi, qu'il avait besoin en quelque sorte d'un coup de force, qu'il aurait piloté en amont lui-même ou qu'il sentait arriver pour reprendre les choses en main.
Vous l'avez dit, beaucoup d'opposition, mais est-ce que à l'actuelle purge, notamment contre les intellectuels et aussi contre un certain nombre de magistrats, d'enseignants, etc., est-ce que cette purge est destinée à éradiquer la société laïque de Turquie ?
Oui, aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où effectivement, le président et le pouvoir, les gens qui sont dans son pouvoir autour de lui, en fait, tapent sur tout le monde. Que ce soit sur les Kurdes, que ce soit sur les intellectuels et beaucoup les journalistes, c'est-à-dire tous ceux qui critiquent en fait son pouvoir autoritaire et autocratique depuis 2-3 ans maintenant. Et donc, tout le monde est mis dans le même sac, à tel point qu'on se demande comment l'État fonctionne encore, parce que il y a des dizaines de milliers d'enseignants, juste avant la rentrée, qui ont été purement et simplement limogés. Mais dans la police, c'est pareil. Depuis 2 ou 3 ans, il y a des dizaines de milliers de policiers qui ont été mis à pied, ou bien simplement mutés, changés de poste. La magistrature, c'est pareil. Elle est sous ses ordres largement, et depuis pas mal de temps. Mais encore aujourd'hui, tous les jours, il y a des juges, des huissiers aussi, des greffiers, des procureurs qui sont arrêtés, parfois mis en prison, ou qui sont mutés, ou qui sont mis à pied, tout simplement. Dans les intellectuels aussi, c'est par centaines qu'on compte les journalistes ou des intellectuels, des chroniqueurs qui sont mis en prison ou les journaux sont fermés aussi par dizaines et par dizaines à travers tout le pays. Donc on se demande vraiment jusqu'où on peut continuer comme ça et si M. Erdogan arrivera à en finir avec cette opposition ou cette menace qu'il considère comme une menace.
Est-ce que un attentat contre le président Erdogan est envisageable?
Tout est possible quand on sait que ces purges, notamment que la reprise en main d'une main de fer par la présidence aujourd'hui, de l'armée et notamment des services de sécurité, ça fait beaucoup de mécontents, c'est certain. Alors cette armée qui a toujours été la bête noire du président Erdogan, hein, quand il était Premier ministre ou encore aujourd'hui, quand on sait que il lui en veulent pour de multiples raisons et notamment quand il s'en prend à la laïcité qui est un dogme absolu en Turquie, un dogme kémaliste, on se dit que tout peut arriver, franchement, tout peut arriver. Il ne faut pas oublier non plus que le président Erdogan lui-même est très malade depuis plusieurs années. Certains attribuent justement ses coups de sang ou sa fureur qui s'exprime tous les jours peut-être à ça aussi. Mais oui, malheureusement, tout peut arriver. On l'a vu avec ce coup d'État dont il avait promis il y a à peine quelques années que la Turquie était sortie de la période des coups d'État. Ben, malheureusement, non. Donc tout est possible aujourd'hui en Turquie.
Vous-même, vous allez retourner très prochainement pour une affaire privée, familiale à Istanbul. Est-ce que vous avez des craintes sur ce voyage?
Et tout comme j'en avais au moment où j'ai quitté la Turquie l'an dernier, effectivement, on en est venu dans ce pays, malheureusement, à se demander ce qui peut nous arriver au coin de la rue ou quand on frappe à la porte en pleine journée ou en pleine nuit. À tout moment, tout peut se passer. Et ce qui arrive à nombre de mes amis ou de mes collègues, beaucoup de journalistes étrangers ont été chassés, expulsés du pays, ou parfois interdits de revenir quand ils y habitaient, qu'ils étaient sortis, ou parfois de venir travailler. Donc effectivement, tout peut arriver. Alors a priori, moi j'ai rien à me reprocher, mais il y a tellement de gens qui aujourd'hui se retrouvent en prison et qui n'avaient rien à se reprocher, sauf d'avoir un petit peu peut-être critiqué le pouvoir, qu'effectivement on se dit que tout peut arriver.
Quel bilan tirez-vous finalement de vos 20 ans passés en Turquie?
C'est un petit peu d'amertume, il faut bien le dire, comme je le ressens, parce que quand je suis arrivé à l'époque, la Turquie était, après quelques, les premières années ont été un petit peu difficiles, il y avait des gouvernements de coalition, etc. Bon. Mais après, il y a eu une ascension assez vertigineuse de la Turquie. Donc, c'était quand même intéressant de suivre ça, d'assister à ça, d'assister à l'ouverture de la société. Et puis là, on assiste aujourd'hui à une fermeture violente du couvercle, quoi. C'est probablement pire que ce qui a été le cas lors du coup d'État de 1980. Et c'est inquiétant et c'est douloureux à vivre, même à distance, pour tous les amis qu'on a là-bas et pour l'ouverture qui a précédé et aujourd'hui la manière dont le couvercle se referme.
Merci Jérôme Bastion, journaliste présentateur à RFI, que l'on retrouve d'ailleurs demain matin pour les journaux Afrique. Et vous étiez, je le précise, ancien correspondant de RFI en Turquie.
Merci, au revoir.
Orient Hebdo sur RFI.
Nous allons maintenant au Caire et à Jérusalem où nous attendent Alexandre Bouchanti et Michel Paul pour lire la presse de la semaine. Bonjour Alexandre.
Bonjour.
Bonjour Michel.
Bonjour.
Michel, à la une de la presse israélienne cette semaine, une rencontre en marge de l'Assemblée générale des Nations unies.
Oui, c'était un des moments attendus de la semaine, la rencontre entre Bibi et Obama, où, comme le soulignent plusieurs journaux, la dernière rencontre. On se sépare comme ça, affirme de son côté Yedioth Ahronot. Alors, Eric, de l'avis général pour les commentateurs et pour les spécialistes du langage corporel, cela s'est passé beaucoup mieux que prévu. Pour Maariv, c'était même la rencontre des sourires. Israël Hayom, le journal proche du Likoud, le parti au pouvoir en Israël, évoque les compliments qui ont été énoncés tout au long de l'entretien, tout juste si l'épineuse question des colonies de peuplement a-t-elle été effleurée. Le Premier ministre israélien, poursuit le journal, a remercié le président américain pour la généreuse aide économique qui a été accordée à son pays. Rappelons que Netanyahou est critiqué précisément sur ce sujet par l'opposition de gauche en Israël. Et selon Haaretz, le chef du gouvernement israélien a tenté d'expliquer une fois de plus à Barack Obama que les colonies n'étaient pas un obstacle à la paix. Un autre commentateur a résumé la rencontre de cette façon. Les deux hommes se sont comportés comme un vieux couple qui a appris finalement à se connaître. Mais un sujet n'a pas été abordé et c'est celui qui inquiète le plus les Israéliens. Que va faire Obama en ce qui concerne le Proche-Orient dans les derniers mois de sa présidence ?
Et puis, il est aussi question, Michel, des discours à la tribune des Nations Unies.
Oui, discours, celui du Premier ministre israélien et aussi celui du président palestinien Mahmoud Abbas. En titre, l'appel de Netanyahou, venez à la Knesset et moi je me rendrai à Ramallah. Et puis aussi des titres très durs, écoutez plutôt, Abou Mazen a regardé les yeux du monde et il a proféré des mensonges. Et aussi, à ce stade, il n'y a pas de partenaire palestinien.
Alexandre, à l'occasion de la fête nationale saoudienne, de nombreux éditoriaux sont consacrés à ce que la presse de Riyad qualifie d'offensive anti-saoudienne.
Oui, une fête nationale qui consacre en fait la prise de pouvoir en Arabie par la dynastie des Al-Saoud le 22 septembre 1932. Alors plusieurs éditorialistes parlent d'offensive de lobby américain, européen et iranien contre l'Arabie saoudite et l'islam sunnite. Car pour la presse saoudienne, critiquer le wahhabisme, c'est s'en prendre à l'Arabie qui est née d'une première alliance au XVIIIe siècle entre un chef de tribu, Ibn Saoud, et le théologien fondamentaliste Mohammed Ibn Abdel Wahhab. Le rapprochement entre le wahhabisme et le terrorisme islamiste est donc considéré comme une conspiration de l'Occident, sous-entendu chrétien, alliée aux Iraniens chiites. Une offensive à laquelle l'Arabie a réussi à résister, selon la presse saoudienne, qui cite notamment l'échec des tentatives de poursuivre l'Arabie pour les attentats du 11 septembre. Une presse qui rappelle aussi les énormes investissements du royaume wahhabite aux États-Unis et en Europe.
Et puis à propos de la Syrie, des journalistes et chercheurs arabes s'intéressent, Alexandre, au changement démographique du fait du conflit.
Oui, ils s'intéressent surtout aux populations sunnites déplacées par le conflit et qui constitueraient la majorité des migrants syriens vers l'Europe, la Turquie et le monde arabe. Ce dernier accueille plus de 3 millions de Syriens entre le Liban, la Jordanie et l'Égypte. Selon des journalistes arabes, il s'agirait d'une sorte d'épuration religieuse visant à se débarrasser des sunnites pour les remplacer par des chiites venus du Liban et d'Iran. Quant aux chrétiens de Syrie, qui, comme ceux d'Irak, fuient massivement le pays, ils sont tout simplement oubliés.
Michel, vos journaux notent une recrudescence des actes de terrorisme.
Et le quotidien Maariv y consacre un supplément spécial avec pour illustration un couteau à la longue lame. Alors ce dossier pose un certain nombre de questions, mais sans vraiment y répondre, notamment de savoir ce qui a provoqué la reprise des attaques d'individus contre des cibles israéliennes. Est-ce l'incitation à la haine qui en est à l'origine ? Pourquoi, demande un des articles, la population arabe de Jérusalem-Est ne s'y oppose pas ? Et aussi, quelles sont les conséquences sur le tourisme en Israël ? Un des journalistes va à l'encontre des idées reçues en proclamant que ce n'est pas l'absence d'un processus de paix qui est à l'origine de cette intifada. Et puis un autre article pose la question différemment. Ce n'est pas pourquoi la vague de violence a repris, mais plutôt pourquoi elle s'est apaisée pendant 4 mois.
Et puis Michel, vous nous parlez d'un service postal très spécial.
Oui Eric, Dieu a reçu du courrier. Des milliers de lettres adressées à Dieu, à Jésus ou parfois à notre Père qui est aux cieux sont acheminées vers le service postal en Israël qui est déjà bien débordé comme ça. Des lettres qui proviennent du monde entier, de Russie, de Chine, de pays africains, des États-Unis et aussi d'Europe. Alors pourquoi les journaux en parlent cette semaine ? C'est tout simplement parce qu'à la veille du Nouvel An juif, ces lettres sont introduites entre les pierres du mur des Lamentations, le dernier vestige du Second Temple, et cela même si l'adresse est incomplète.
Alexandre, selon les journaux arabes, le groupe État islamique de Libye reculerait sur Internet comme il a reculé sur le terrain.
Oui, Daesh Libye a effectivement perdu une grande partie de ses sites et pas sur Internet du fait de la prise de ses locaux dans la région de Sirte. Alors Sirte où, selon la presse, on a trouvé du matériel sophistiqué, des missions par satellite, mais aussi des ordinateurs dernier cri, sans oublier du matériel vidéo sophistiqué utilisé pour les films de propagande et pour filmer les exécutions. Selon la presse arabe, le groupe État islamique en Syrie et en Irak tente de compenser ses pertes dans le cyberespace en créant de nouveaux sites et pas sur Internet. Certains journalistes se posent d'ailleurs la question « Et qui fournit le service Internet à l'État islamique ?»
Alors pour conclure, Michel Paul, votre photo du jour.
Eh bien c'est la photo d'Eli Cohen, le célèbre espion israélien pendu en place publique à Damas en 1965. De nouvelles images ont été rendues publiques par des opposants syriens et selon une chaîne de télévision libanaise, le corps de Cohen pourrait même être restitué alors que le régime syrien a toujours affirmé ne pas connaître son lieu de sépulture.
Affaire à suivre. Merci Michel, merci Alexandre. À la réalisation, François Porcheron. Vous pouvez réécouter Orient Hebdo sur le site de la radio www.rfi.fr, rubrique émission, ainsi que sur notre page Facebook. Passez une bonne semaine à l'écoute de RFI. On se retrouve samedi prochain à la même heure. Tout de suite, un nouveau journal.